toutes et à tous, nous sommes le vendredi 4 avril, vous écoutez Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Pour la dernière de la semaine, Thomas vous propose en deuxième partie d'émission une chronique sur le jeu Monster Hunter Wilds. Mais avant, on retrouve Jade, Mariam et Émilie pour l'interview du jour. Elle participe à notre atelier de création radiophonique en lien avec le service culture et création de l'UPJV. Elles ont eu l'occasion de rencontrer Pierre Stepanoff, directeur du musée de Picardie. Il nous parle de la programmation du musée de Picardie, notamment l'exposition autour de la broderie des Ursulines, mais aussi de l'histoire du musée en général, puisqu'elles ont eu la chance de pouvoir mener cette interview dans l'enceinte même du musée. Je vous laisse donc avec l'interview de Pierre Stepanoff.
On se retrouve aujourd'hui dans un cadre magnifique. On est dans la chapelle du musée de Picardie, à Amiens, en présence de Pierre Stepanoff, le directeur du musée. Monsieur Stepanoff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc dans un bâtiment avec une grande histoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, bien sûr. Ce bâtiment, hein, c'est vraiment une sorte de palais monumental dédié aux arts et qui a été construit pour accueillir les collections amiennoises de 1855 à 1863. Et ce qui est très important à savoir, c'est que dans l'histoire de France, c'était la première fois qu'on construisait un bâtiment spécifiquement pour servir de musée. Si vous voulez, auparavant, les musées étaient logés dans des bâtiments dont ce n'était pas la vocation première. L'exemple le plus célèbre, c'est le musée du Louvre, qui à la base est le palais des rois de France et qui est devenu un musée. Donc là, pour la première fois, des architectes ont dû imaginer à quoi devrait ressembler un musée. Et ça se sent en fait dans ce bâtiment. Déjà, c'est un bâtiment qui est très rationnel dans son plan, hein. Vous voyez ces quatre pavillons latéraux et quatre grandes ailes qui les relient, avec un grand salon central. Vous remarquerez aussi qu'au rez-de-chaussée, on a des grandes fenêtres, et ça sert en fait à éclairer les sculptures, tandis qu'à l'étage, on a des grands murs sans fenêtres, et ça permet d'exposer beaucoup de tableaux. Donc vous voyez, ça c'est des principes un peu élémentaires, et puis d'autre part, vu qu'on est au 19e siècle, on aime faire les choses en grand, avec beaucoup de décoration, et ça a pour conséquence le fait que ce musée est extrêmement orné, aussi bien par des sculptures sur ses façades extérieures que par des peintures et des décors tout le long de la visite à l'intérieur de nos murs.
Donc vous êtes arrivé plutôt récemment en 2023 et on voudrait savoir qu'avez-vous souhaité mettre en place en arrivant au musée de Picardie ?
Plusieurs choses. Tout d'abord, ce qui m'a semblé important, c'est de montrer davantage de pièces de la collection, parce que notre collection est très très riche. Je viens de vous parler du bâtiment et c'est vrai que ce musée est célèbre pour son bâtiment et donc mon souhait, c'était peut-être aussi de réorienter la notoriété du musée vers ses collections. Et donc on a beaucoup d'œuvres qui se trouvaient en réserve et qui sont d'un tout premier intérêt. Donc c'est pourquoi on s'est lancé dans des campagnes de raccrochage qui nous occupent encore aujourd'hui et qui vont encore nous occuper pendant longtemps, avec des œuvres à restaurer, d'autres à présenter en l'état. Et donc ça va permettre d'enrichir, je l'espère en tout cas, la proposition qui est faite à nos visiteurs et donc leur connaissance à la fois des curiosités artistiques de notre région, mais aussi bien au-delà, puisqu'on a une très belle collection de peintures italiennes, de peintures flamandes, de peinture hollandaise, donc ça c'est des choses qu'on a envie de montrer de manière plus dense. Et puis d'autre part, il m'a semblé aussi intéressant de mettre en place une série d'expositions, enfin un programme d'expositions qui contribue aussi à mieux faire connaître soit nos grands artistes, soit les trésors artistiques de notre région, ce qui explique la tenue de cette exposition sur les broderies réalisé à Amiens au XVIIe siècle, même si c'est une histoire plus complexe qui a pu se faire grâce à des circonstances assez singulières. Et encore une fois, cet été, par exemple, on va aussi présenter une grande exposition sur le peintre Albert Maignan, qui est un de nos plus généreux donateurs. Et donc c'est notre rôle de le faire connaître, puisqu'en le faisant connaître, on valorise bien sûr notre musée sur le temps long, bien au-delà d'une exposition.
Alors actuellement, au musée, il se trouve une nouvelle exposition exposition, donc la broderie des Ursulines, pardon. Donc on aimerait en savoir un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire ?
Oui, tout à fait. Alors, donc c'est une exposition qu'on a ouverte il y a très peu de temps, mais qui est reflet donc d'un long travail que l'on mène depuis 2024. Le cœur de notre propos, c'était d'abord d'acquérir en fait cette pièce qui n'était pas à nous. Et cette exposition, en fait, est le fruit de cette acquisition. Il faut penser d'abord acquisition puis exposition. L'exposition qui a été mise en place par mon collègue François Séguin, qui est conservateur des, entre autres choses, des arts décoratifs dans ce musée. Donc en fait, si vous voulez, cette pièce de dimension vraiment considérable et d'un extrême raffinement quant à sa technique a été réalisée dans les années, on va dire, 1660 à Amiens pour servir de décor, d'ornement de la chapelle de cet ordre religieux qui était les Ursulines. Donc ça avait été fondé quelques décennies auparavant et ces religieuses donc avaient vraiment un intérêt artistique très fort et donc elles avaient vraiment le souhait que leur chapelle ressemble à, comme on disait à l'époque, à un petit paradis. Donc on y trouvait des peintures, des sculptures, des broderies et c'est vrai que ces religieuses s'étaient faites une spécialité de l'art de la broderie. Et donc un des témoignages les plus impressionnants de ce savoir-faire, eh bien c'est cette broderie qui est un devant d'autel, donc voilà, qui sert à orner un autel pour dire la messe. Et donc cet objet a été confectionné à cette occasion pour leur usage, pour le décor de leur chapelle, sans doute lors de fêtes un peu particulières. Il ne devait pas être présenté tous les jours. Et donc cet objet, par la suite, traverse la Révolution sans encombre, alors que les religieuses ursulines sont un peu persécutées, hein, si je puis dire, par le gouvernement. Et au début du 19e siècle, donc, l'objet réapparaît et leur appartient toujours. Jusqu'en 1904, date à laquelle donc les congrégations religieuses sont à nouveau expulsées de France par le gouvernement. Au moment où on est à la veille de la séparation des églises et de l'État. Et donc ces religieuses partent avec leur trésor en Belgique, donc pas très loin d'ici. Et de toute évidence, cet objet, eh bien, elles le vendent à ce moment-là parce qu'elles devaient avoir des besoins financiers. Forcément, elles avaient quitté leur siège. Et par la suite, donc, cet objet va évoluer de collection en collection. On ne connaît pas parfaitement l'ensemble de l'historique de l'objet. Il est réapparu dans les années 2000 et dans la collection d'un grand amateur de broderie, d'art textile, qui s'appelle Monsieur Daniel Fruman, qui a voulu que certaines des pièces les plus spectaculaires de sa collection, et incontestablement cette broderie, c'est la pièce la plus spectaculaire de sa collection, mais il voulait que ça finisse dans un musée. Et donc nous avons été contactés par des collègues du musée du Louvre et nous avons pu donc tenter quelque chose auprès de ce collectionneur et mobiliser des mécènes ainsi que des financements publics pour réaliser cette acquisition. Et donc un an plus tard, on est en mesure donc de présenter l'objet au public dans cette très belle petite exposition.
Pourquoi avoir acquis cette broderie aujourd'hui ?
Eh bien écoutez, parce que en fait ça fait vraiment partie des missions des musées veiller à l'enrichissement du patrimoine collectif. Comme je vous l'ai raconté, cet objet, il a été un peu perdu de vue, en fait, de 1904 à 2024. Donc, pendant 120 ans, on était un peu sans nouvelles. Et les opportunités ne se reproduisent pas sur un claquement de doigts et les objets ne sont pas disponibles quand on le souhaite. Donc, il nous a semblé très important de se mobiliser à ce moment-là pour essayer, en quelque sorte, de réparer l'histoire. L'objet était depuis le XVIIe siècle à Amiens. Il avait quitté sa ville natale, si je puis dire, si on parle presque comme une personne. Donc c'est un des cœurs des missions des musées d'enrichir les collections et de mettre à disposition des visiteurs et notamment des Amiénois des pièces fondamentales de leur patrimoine. L'histoire du textile à Amiens, c'est extrêmement important. C'est vraiment quelque chose qui a fait la richesse de cette ville depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution industrielle. Et donc là, on avait l'opportunité, pour le coup, voilà, d'acquérir un des chefs-d'œuvre absolus de ce savoir-faire. Donc voilà, c'est pour ça que c'était très important, à la fois pour mieux faire connaître leur histoire et leur patrimoine aux Amiénois, mais peut-être aussi, je pense, susciter de la fierté, parce que c'est un objet extraordinaire et c'est formidable de se dire que par le passé, eh bien, des gens de cette ville ont pu produire une œuvre qui, vraiment, je le dis, je cite nos collègues du musée du Louvre, peut être considérée comme le chef-d'œuvre absolu de l'art français de la broderie du XVIIe siècle. Donc, un intérêt local, mais un chef-d'œuvre national, voire international. Aussi.
Du coup, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire et j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que le fait que cette broderie revienne à Amiens, cela remplit cette mission de représentation culturelle ?
Ah oui, 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 tout à fait. Et je dirais plus fort encore que culturel, je dirais patrimonial. On pourrait dire qu'on assume une mission culturelle si on montrait cet objet, voilà, le temps de cette exposition, mais on fait plus que ça, on le rend vraiment aux Amiénois. Et cet objet, désormais, est la propriété collective et inaliénable de ce musée, pour toujours. Donc, vous voyez, la mission, elle est même plus que culturelle, elle est vraiment patrimoniale, c'est-à-dire enrichir ce trésor dont on a la garde et qu'on se doit de mettre à disposition de tous.
150 ans plus tard, il aura fallu du temps pour qu'elle nous revienne, cette toile. Où est-ce qu'on peut la retrouver dans le musée ? Comment vous l'avez mise en valeur ?
Alors, cet objet, donc, il se trouve donc dans un petit cabinet, le cabinet de l'étude, donc qui est une petite salle qui se trouve en haut de l'escalier d'honneur et qui est très très utile pour nous, puisque au milieu de nos très grandes galeries, voilà, ça fait partie de ces quelques petites salles qu'on a où on peut maîtriser assez bien la lumière, et c'est un objet qui craint la lumière, donc il faut maîtriser vraiment son exposition à la luminosité, sans quoi sur le temps long, en fait, les couleurs s'abîment. Et puis on voulait aussi présenter ce propos dans une petite salle pour donner cette ambiance un peu de préciosité et de trésor sur un mode presque initiatique. Les visiteurs le verront, la salle est assez sombre, donc on a l'impression de pénétrer dans une espèce de lieu un peu précieux et sacré. Et donc voilà, c'est dans cette salle qu'on le présente, entouré d'autres broderies de notre fond, ou pour être plus précis, d'autres broderies qui sont déposées chez nous par l'ordre des Ursulines. Et dont on a la garde également, et donc c'est passionnant de voir ces pièces précieuses et de voir le chef-d'œuvre de cette technique réalisée par cette communauté de femmes.
Alors cette exposition, la broderie, pardon, repart malheureusement du musée de Picardie le 6 juillet pour une restauration. Comment expliquez-vous ce choix de l'exposer avant de la restaurer à nouveau ?
Eh bien, parce que, comme je l'ai dit, il y a eu une dimension patrimoniale très très forte dans cette acquisition. J'ai presque envie de dire une dimension très politique et collective, puisque on a vraiment vu les Amiénois s'associer à ce projet, se mobiliser collectivement. On a vu également des entreprises nous soutenir. Je veux notamment remercier la Fondation du Crédit Agricole Brie Picardie, qui est donc la caisse locale, hein, ici, qui nous a soutenus très généreusement à hauteur de 100 000 euros. C'est pour cette raison que, arrivé au terme de ce projet d'acquisition, ça nous semblait quand même important de montrer l'objet au public et de pas relancer encore une période qui peut être longue de restauration, parce que quand on se lance dans une restauration, on sait pas combien de temps ça peut durer, hein, voilà. Donc l'urgence pour nous, c'était d'abord de montrer cet objet au public. On a beaucoup parlé de cet objet au public, on a été beaucoup soutenus, donc voilà, il était temps de rendre, si je puis dire, aux Amiénois leur dû après cette si belle mobilisation, et puis après viendra le temps de la restauration.
Et quand est-ce qu'il finira, ce temps-là, de la restauration ?
Écoutez, c'est compliqué à dire. Une restauration, ça se passe toujours en deux temps. Il se passe d'abord ce qu'on appelle une étude préalable, c'est-à-dire qu'on va étudier l'objet et voir dans quel état il est. Donc ça peut être assez long, on peut faire une étude assez, assez complète. Il faut comprendre la technique de cet objet, il faut comprendre comment il est fait pour ensuite, dans un second temps, le restaurer. Donc ça va prendre plusieurs mois, bien sûr. Et puis après, on pourra peut-être montrer à nouveau cet objet restauré. Donc là, ça devrait créer aussi une certaine surprise auprès des visiteurs. La question de la restauration, elle est évidemment très nécessaire pour les objets, mais elle est aussi intéressante pour le public, notamment quand le public peut voir la différence entre avant et après. D'où l'intérêt de la montrer avant, pour ensuite peut-être la montrer après, pour que les visiteurs puissent voir justement la différence, et sans doute qu'on puisse également tenir un propos sur cette restauration et leur faire comprendre un peu comment ça marche.
Pourriez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir au musée de Picardie au-delà de cette exposition ?
En ce moment ?
Oui.
Écoutez, il y a des collections quand même prodigieusement riches. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre établissement, voilà, il faut avoir à l'esprit qu'on fait partie de ces musées universels très caractéristiques du 19e siècle, qui vont de la préhistoire jusqu'à l'art contemporain, de ces musées également qui vont et viennent entre la curiosité locale, donc les richesses de la Picardie, mais aussi des collections internationales, hein, puisqu'on a aussi bien pour l'Antiquité des collections égyptiennes ou des sculptures qui viennent de Palmyre ou des objets qui viennent de Grèce. Pour le Moyen-Âge, on a également des pièces italiennes, des pièces flamandes. Évidemment, pour la collection de peinture, on a de l'art espagnol, italien, flamand et hollandais. Donc on a ce double aspect dans nos collections, à la fois locale, nationale et internationale. Et donc effectivement, on se mobilise, comme je le disais en introduction, pour montrer davantage d'œuvres dans notre parcours. Et donc ces derniers mois, on a eu l'occasion de remanier le parcours pour l'art du XVIIe siècle en peinture. On a sorti une bonne quarantaine d'œuvres de réserve, je crois, peut-être une cinquantaine, italiennes, françaises, flamandes, hollandaises. Et donc on sort très régulièrement des choses de réserve. Par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, on a intégré dans le parcours un tableau qu'on a acheté tout récemment, enfin qu'on a acheté il y a 6 mois, je dirais, sur le marché de l'art, qui nous a été offert par les Amis des Musées d'Amiens. C'est une association qui nous soutient dans nos projets, et c'est un tableau qu'on a acheté en vente publique à Paris et qui a été peint par un Amiénois du XVIIe siècle également, donc qui connaissait peut-être sans doute les Ursulines, qui s'appelle Frère Luc, puisque c'était également un religieux, natif d'Amiens, et qui a mené une très belle carrière dans toute la France et jusqu'au Canada. Alors imaginez, en 1670, il s'est retrouvé envoyé par son ordre religieux au Canada pour peindre des tableaux, dessiner des églises, donc c'est une espèce de rôle de peintre et d'architecte. Et puis il est revenu en France, et donc cet artiste, eh bien, on a envie de le valoriser, et donc on a eu l'occasion d'acheter une œuvre de sa main qui représente un Christ flagellé. C'est un très beau tableau. Je peux vous dire que quand on l'a acheté, il était dégoûtant. Il était tout marron, tout sale, avec un vernis complètement oxydé. Et ça, en fait, c'est très bon signe. Ça veut dire que personne n'a touché à ce tableau. Et donc, la restauration a été absolument éblouissante. Et ce tableau est vraiment très, très beau. On en est très heureux. Et donc voilà, c'est l'idée de dire que chaque semaine, il y a des nouvelles choses qui se passent dans les collections, et il y a des nouvelles choses à voir, sans parler de la très riche programmation qui est proposée à nos visiteurs.
Alors, une dernière chose, Monsieur Stepanov, j'aimerais aborder avec vous une nouvelle exposition qui va bientôt arriver à venir sur Albert Ménian.
Oui, mais très volontiers, et on fait un peu de teasing, effectivement. Alors Albert Ménian, c'est un artiste franchement oublié, hein, aujourd'hui, il n'est pas très connu, mais je pense qu'il va énormément séduire nos visiteurs. C'est un artiste qui est très lié à Amiens, bien qu'il soit natif de la région du Mans, de la Sarthe, et c'est un artiste parisien en fait, hein. Toute sa carrière il l'amène à Paris, il fait partie des artistes les plus célèbres de son temps. Avant de vous retrouver, j'étais encore en train de travailler sur le futur catalogue, et c'est absolument ahurissant de voir la presse de l'époque qui parle tout le temps de lui. Donc c'est un artiste qui à la fois a donné des grands tableaux d'histoire, qui mettent notamment en scène le Moyen-Âge, dans des grandes compositions, des tableaux parfois imaginez, de 4 mètres de haut, hein, donc des choses gigantesques, et on va en présenter à l'exposition, donc ça va être assez spectaculaire. C'est aussi un peintre qui a réalisé des décors pour des lieux publics, notamment à Paris, à l'Hôtel de Ville de Paris, au buffet de la gare de Lyon, un grand restaurant qui s'appelle Le Train Bleu, qui est recouvert de peinture. Vous avez déjà vu ?
C'est très bon.
Et c'est beau ou c'est pas beau ?
Oui, c'est très beau aussi.
Aussi. Voilà. Donc, il a peint dans des églises, il a donné des cartons de tapisserie, notamment des tapisseries de sa main qui ornent le Sénat à Paris. Il a donné aussi des modèles de vitraux, donc un artiste qui s'intéressait un peu à tout. Et puis, il a peint aussi son époque, hein, la vie moderne, les hommes de son temps, des femmes avec des grands chapeaux, des messieurs avec des redingotes, etc., dans des très belle composition. Et donc cet artiste, un de ses tableaux les plus ambitieux, qui s'appelle Les Voix du Tocsin, c'est un tableau gigantesque qui se trouve dans le Grand Salon, ici à Amiens. Il présente ce tableau au Salon en 1888, grand succès. Il le représente à nouveau à l'exposition universelle de 1889, donc celle qui a vu la construction de la Tour Eiffel, vous savez. Et ce tableau est acheté par le gouvernement, parce qu'on le trouve très beau, et il est envoyé au musée d'Amiens. Donc Albert Ménian se rend à Amiens, il apprécie le musée, il le trouve très beau, très moderne. Comme je le disais, c'était rare en ce temps-là des musées aussi grands, aussi modernes. Il est très bien reçu, très bien accueilli et donc il s'attache à cette ville. Et puis à la fin de sa vie, voilà, il se pose la question, comment perpétuer ma carrière en fait, hein, comment garder la mémoire de tout ce que j'ai fait. Et donc il décide à la fin de sa vie de léguer à la fois tout son fonds d'atelier, donc tous les dessins qu'il avait réalisés, qu'il avait gardés, tous les tableaux qu'il avait gardés pour lui. Ça peut être des esquisses, des œuvres préparatoires pour ses grands tableaux qui sont un peu dans tous les musées de France, ou ça peut être des peintures qu'il peignait pour son plaisir. Il aimait bien peindre dans son jardin, notamment de sa résidence qu'il avait en banlieue parisienne, et d'autre part sa collection personnelle. C'est quelqu'un qui était fasciné par le Moyen-Âge, il nous a donné énormément d'objets du Moyen-Âge, des sculptures, de l'orfèvrerie, des choses très précieuses, et des objets de l'Antiquité aussi, de l'Antiquité grecque, de l'Antiquité égyptienne, de l'Antiquité romaine, des Mérovingiens également. Si le visiteur s'amuse à parcourir notre musée et à regarder bien sur les cartels d'où viennent les œuvres, parce que c'est toujours écrit, le visiteur sera très étonné de voir en fait le nombre d'œuvres qui viennent du legs Albert Ménian, c'est écrit dessus. Donc on lui doit énormément de choses. Et donc c'est notre rôle de valoriser cette carrière qui est très riche, très foisonnante. C'est un artiste assez virtuose, hein, qui présente des personnages dans des poses complexes, avec des couleurs très vives. Et donc je pense que c'est un peintre qui va beaucoup plaire.
Et pour cette exposition-là de Ménian, ce sera à partir de quand ?
Ça commence le 28 juin.
Le 28
et
juin.
Ça va durer 6 mois jusqu'en janvier, donc il y a tout le temps pour la voir, la revoir et la revoir encore.
Ça, c'est très sympathique. En attendant, on a toujours l'exposition des Ursulines qu'on peut retrouver du 8 mars, donc ça a déjà commencé, jusqu'au 6 juillet, où après, comme on a dit, elle part en restauration. Il y a aussi des ateliers en lien avec les expositions des Ursulines ou non, notamment ce samedi 5 avril à 14h30, 15h30, 16h30, on a la chasse exotique de Louis XV. On a des visites en famille, donc c'est vraiment des visites, on va dire, plus allégées pour que les enfants soient intéressés tout du long. Donc ça, c'est le mercredi 9 avril à 15h. Et en lien avec les Ursulines, on a un atelier d'initiation à la peinture à l'aiguille, très précis. Donc pour les enfants, c'est le 10 avril à 14h et pour les adultes, le 22 avril à 14h. Il y a des choses à faire dans ce musée.
Oui, tout à fait. Hein. Vous voyez même des... Parce que qu'est-ce que c'est que la peinture à l'aiguille ? En fait, c'est la broderie. Hein. Et donc, voilà, pour la première fois, on propose même des ateliers d'art textile et ça a un énorme succès. Donc si vous voulez y aller, dépêchez-vous.
Et bien, merci beaucoup. Merci Monsieur Stepanov pour votre accueil au musée et pour toutes ces précieuses informations que vous nous avez livrées. C'était un plaisir de découvrir les Ursulines et on espère avoir attisé la curiosité des auditeurs pour qu'ils viennent admirer cette belle exposition avant son départ ainsi que tout le musée.
Merci à vous.
Merci à Jade, Mariam et Émilie pour l'interview ainsi que Benjamin à la technique et Rémi à la photo. On continue en musique avec une célèbre chanteuse libanaise, Férouz, et son titre Kifik Enta.
Kifik enta.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, vous venez d'écouter Kifik Anta de Férouz, et sans plus attendre, on passe à la chronique jeux vidéo de Thomas.
Aujourd'hui, j'aimerais porter votre attention sur le petit monde du jeu vidéo, et notamment sur les sorties de ce début d'année. Février et mars 2025 ont été très, très, très épais en termes de nouveautés. On peut penser à Lost Record, Bloons of Rage, Assassin's Creed Shadow ou encore Civilization 7. Et si la plupart de ces jeux ont été à leur niveau des succès publics ou critiques, il y a un jeu qui a crevé l'écran dans ce début d'année. Il s'agit de Monster Hunter Wild. Et en effet, si la série des Monster Hunter n'est pas du tout récente, bien au contraire, le premier opus est tout de même sorti il y a en 2004. La série a eu énormément de mal à se démocratiser en dehors du pays du soleil levant. Et ce, malgré un univers complet et intéressant, une boucle de gameplay bien construite et assez profonde, le tout accompagné d'une rejouabilité, qui ne demande qu'à faire disparaître votre temps libre en un claquement de doigts. Au point que certains opus de la licence, finalement, n'aient jamais dépassé la frontière nippone. Cela va radicalement changer le 26 janvier 2018 avec la sortie dans le monde entier du dernier bébé, à l'époque de Capcom, Monster Hunter World. Monster Hunter World avait pour objectif de rendre la série des MH connue du grand public. Cet objectif a tout simplement été explosé. Le jeu se vend à hauteur de 19 millions d'exemplaires. Il écrase ainsi les chiffres des précédents Monster Hunter, à savoir 3,4 millions de ventes. Pire, il devient même le jeu le plus vendu par Capcom, toutes licences confondues, devant des piliers du genre tels que les Resident Evil ou encore les Street Fighter. 8 ans après le succès de Monster Hunter World, sort le 28 janvier 2025 Monster Hunter Wild. L'attente était très grande et la pression très forte. À nouveau, celle-ci a été explosée. 8 millions de ventes en moins d'une semaine, puis 10 millions et des chiffres de jeux qui ont été quintuplés sur PC. Il semblerait que la route des Monster Hunter Wild soit pavée de succès. Maintenant, côté review, votre humble serviteur que je suis n'aurait pas osé vous parler d'un jeu ce que je n'aurais pas testé de mes propres mains. Et pour être honnête avec vous, cher auditeurice, je ne suis pas tout à fait neutre sur le sujet. Je joue en effet à la série des Monster Hunter depuis que je suis en primaire et de ce fait, j'ai des attentes très poussées. Comme chacun le sait, plus on aime une série, plus on a tendance à être dur avec. Et bien, c'est la même chose pour les jeux vidéo. Et du coup, mon ressenti sur Monster Hunter Wild est assez précis. En effet, en un mois, j'ai joué un peu plus de 150 heures pour le travail, bien évidemment, et j'ai l'impression que le jeu est assez bon dans sa globalité, et ce malgré un bestiaire un peu maigre. Le jeu est toujours au top du top, en termes de gameplay et de routine, et le tout est supprimé par une histoire qui, cette fois, et pour une fois, j'ai envie de dire, a le mérite d'être assez intéressante à suivre. En somme, que vous soyez un nouveau joueur ou un ancien, le jeu est une super porte d'entrée à la licence, tout en satisfaisant toujours les vétérans.
Merci Thomas pour ce feedback complet sur Monster Hunter Wild et bien sûr ton implication dans l'étude de ce jeu. Voilà, c'est déjà la fin d'Info Club Sandwich et comme d'habitude, on se quitte en musique, mais cette fois on se quitte avec la BO du jeu Monster Hunter Rise, Proof of a Hero. Merci de nous avoir écoutés et à lundi sur Radio Campus Amiens.